instant où vous voyez un avenir prometteur ?
Alors, on fait les progrès. Mais à la base, si vous voulez, les chaînes carbonées du pétrole, qui sont issues d'une maturation, parce que c'est vieille de plusieurs milliards d'années, c'est une matière première d'excellente qualité comparée à, par exemple, l'amidon de maïs ou d'autres choses. Donc, on va faire des progrès. Mais la recherche sur les plastiques biosourcés a entre 50 et 60 ans de retard. Et on est très 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 loin, on est très loin d'arriver aux qualités du plastique issu du pétrole. Et quand bien même, il ne faut pas oublier que le plastique, il ne faut pas le jeter dans la nature, ça fait du microplastique, etc., etc. Mais le plastique bien collecté est quelque chose qui est recyclable à l'infini. On commence à le faire, par exemple, avec les bouteilles. Les bouteilles, c'est facile à recycler. Vous recyclez ça avec très peu d'énergie, donc c'est mieux que le verre, c'est mieux que le carton. On va pas se raconter l'histoire. Nous avons besoin du plastique, et si nous arrivons à 1. extraire le pétrole correctement, sans fuite de méthane. C'est déjà ce que font les Norvégiens, c'est pas du tout encore ce que font les pays du Moyen-Orient, le Venezuela ou l'autre. Si nous arrivons à l'extraire correctement, ce qui est techniquement tout à fait possible, si nous arrivons à bien le collecter et bien le recycler, on a tout intérêt à garder cette source absolument fantastique de chaînes organiques pour toute notre chimie quotidienne. Hein, les vêtements que vous portez, vous avez forcément du pétrole sur vous, et c'est tant mieux. Et c'est peut-être ce qui a l'empreinte carbone la plus réduite, on ne s'en rend pas compte. Et de toute façon, le drame, on nous dit toujours qu'on va arriver à la fin du pétrole dans quelques années, on n'arrête pas de découvrir de nouveaux gisements. Mmh. Donc, nous et le pétrole, c'est une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter.
Et vous ne devez pas vous faire que des amis quand vous dites ça, mais vous l'expliquez très bien dans votre livre, évidemment, et vous faites la distinction entre les façons dont on utilise le pétrole aujourd'hui. On va en reparler si vous voulez.
Ou par le privé, il reste toujours un bien public et ce sont toujours les collectivités locales qui fixent le prix de l'eau. Voilà, c'est pas un opérateur, Veolia ou etc., qui fixe le prix de l'eau. C'est toujours les collectivités locales qui le fixent. Alors, est-ce qu'il faut économiser l'eau ? Ben, oui et non, évidemment.
Bah, pour des raisons économiques, si on veut faire des économies.
Il ne faut rien gaspiller, voilà. Mais bon, en France, l'eau ne coûte pas très cher. On dit pour une famille, en général, c'est 1 € par jour. Bon, évidemment, ça, c'est toujours intéressant d'économiser et de ne pas gaspiller. Mais si vous mettez par exemple qu'une ville décide de diviser par deux, par un bon comportement de ses citoyens, sa consommation en eau, qu'est-ce qui se passe ? Le réseau a été dimensionné pour distribuer une certaine quantité d'eau dans la ville. Si tous les tuyaux sont remplis à 50%, ça devient extrêmement dangereux. Ça veut dire qu'ils sont plus remplis d'eau, des moisissures, des bactéries peuvent se développer, etc. Ça veut dire qu'il faut éventrer toute la ville, il faut diminuer par deux le diamètre des tuyaux. Le remède est peut-être pire que le mal, parce que redimensionner un réseau d'eau potable, il faut en fait viser à avoir une consommation régulière d'eau, ni trop, ni trop peu. Mais parfois, on dit toujours, le mieux est l'ennemi du bien, et sur cette question d'économiser l'eau à tout prix, on voit très bien que le remède serait sans doute pire que le mal.
Mais pour revenir à l'exemple des bâtiments et de l'isolation des bâtiments, et on revient sur un message aussi qui nous est arrivé, message de Fabienne, vous dites en fait, voilà, si on isole bien le bâtiment, on voit que 2 ans plus tard, le comportement humain change. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas isoler les bâtiments. C'est ça qui est très compliqué, l'idée, en effet, en radio.
Quand on fait le bilan au bout de quelques années, que change l'isolation ? Si vous ne touchez pas à votre chauffage, l'isolation va changer votre confort. C'est plus agréable de vivre dans un bâtiment bien isolé que dans une passoire thermique. Mais est-ce que sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, donc de l'empreinte carbone de votre maison, ça va changer quelque chose ? Non. Voilà, il faut être bien conscient. Quand le gouvernement dit on va isoler les bâtiments pour diminuer l'empreinte carbone des maisons, c'est une stratégie qui est fausse. Si on dit on va isoler les maisons et dépenser pour ça des dizaines de millions d'euros pour le confort des habitants, alors là d'accord. Mais c'est pas comme ça qu'on nous vend l'isolation en France. On nous dit c'est pour un impératif écologique. Or, la science démontre par l'expérience et par des études, encore une fois, ça a été fait en Allemagne, ça a été fait en Angleterre, que de ce point de vue-là, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec.
Parce que la
nature humaine étant ce qu'elle est, on a toujours ce qu'on appelle ce fameux effet rebond. L'humain se dit, puisque maintenant j'ai une maison qui est bien isolée, qui est écolo, je vais me lâcher sur la température de chauffage. Et ben, c'est plus agréable dans ma maison bien isolée de vivre à 22 degrés que de vivre à 19 quand auparavant je craignais d'allumer trop mon chauffage en me disant mes factures vont augmenter. Voilà. Malheureusement, changer les comportements humains, c'est sans doute ce qui est le plus difficile à faire.
On peut garder espoir et se dire que si on invitait plus justement la discussion dans ce sens, on finirait par changer les comportements quand même.
Oui, alors moi je méfie toujours des gens qui disent on va changer les comportements, c'est quelque chose de difficile. Non, mais si vous voulez diminuer l'empreinte carbone de votre maison, il y a un truc qui est très simple. En France, du moins, c'est facile. C'est que vous dites au lieu de rénover et d'isoler notre maison, on va convertir les chaudières au fioul ou à gaz en pompe à chaleur alimentée par de l'électricité. Alors là, vous réduisez l'empreinte carbone. Si vous n'isolez pas, c'est pas sûr que vous réduisez le confort, mais vous allez réduire l'empreinte carbone.
Dans cet ouvrage, et on terminera par... alors ça pourrait paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Vous avez une partie consacrée plus à l'agriculture, on va dire.
Oui.
Et vous parlez des clémentines qui n'ont pas de pépins. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, c'est une petite parenthèse rigolote qui est ouverte. Et en fait, pas du tout. Parce que du coup, ça pose plein de questions sur la manière dont aujourd'hui les produits que nous consommons sont sélectionnés et dans la manière dont nous les sélectionnons aussi.
Les clémentines, c'est vraiment c'est un exemple particulièrement révélateur que à peu près tous les végétaux que nous mangeons, et une bonne part des animaux aussi, hormis le gibier, ce sont des créations totalement artificielles,
ouais,
qui ont été faites à des instants donnés. Et la clémentine, vous le savez, du clémentinier, le clémentinier qui était un petit peu au mandarinier et à l'oranger ce que le mulet est à l'âne et à la jument. C'est un hybride qui est stérile. Il est tellement stérile que pour reproduire un clémentinier, pour fabriquer des nouveaux clémentiniers, on n'a jamais trouvé rien de mieux que de cloner. C'est-à-dire que tous les clémentiniers de la Terre sont issus du premier, qui sont des copies conformes, des frères jumeaux du clémentinier qui a été isolé dans un jardin botanique algérien par le frère Clément au début de notre siècle. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'humanité doit sa survie, et surtout ses productions agricoles, à beaucoup d'hybrides. Et la clémentine est un bel exemple, effectivement, d'un hybride qui a réussi, puisqu'il marie la douceur de l'orange douce à celle de la mandarine. Voilà. Et si on disait aux gens clémentine issue de plantes clones, c'est pas sûr que ce serait extrêmement vendeur. Vous savez, les gens disent, écoute, les clones, mais qu'est-ce que c'est, etc., etc. Eh bien oui, voilà, tous les clémentiniers sont des clones, et toutes les clémentines ont exactement le même patrimoine génétique que la clémentine d'origine.
L'hybridation, c'est quelque chose qui est relativement répandu, plus que peut-être qu'on l'imagine aujourd'hui dans l'agriculture, qui parfois a sauvé des populations entières, ça vous le rappelez aussi.
Bien sûr.
Et l'hybridation naturelle dans la nature, sans l'intervention de l'homme, elle existe aussi.
Vous savez, tout est dans la nature quand on finit par chercher. Effectivement, l'hybridation est un phénomène tout à fait naturel. Alors, parmi les grandes cultures, le blé, par exemple, le blé n'est pas hybride, mais un hybride qui a véritablement changé le cours de l'histoire, c'est le riz. Le scientifique chinois qui a créé les premiers riz hybrides, ce qui a permis de doper considérablement le rendement du riz et d'éloigner en Asie le spectre des disettes et des famines, est considéré en Chine comme un héros national. Aujourd'hui, tous les riz que l'on mange, ce sont des riz hybrides. Et effectivement, c'est vraiment, l'hybridation est un des moteurs qui explique que, avec la même surface de terre arable, de terre labourable, la surface de la planète, on a pu multiplier depuis les années 40-50, on a multiplié par 5 ou 6 l'ensemble des productions agricoles.
Et vous revenez sur cette histoire au Nigeria aussi, qui est intéressante.
Alors, ça, je parle de l'exemple nigérian au sujet des OGM. Vous savez que les OGM n'ont pas bonne presse en Europe. C'est d'ailleurs un des derniers endroits de la Terre où ils n'ont pas bonne presse. Alors, les OGM, on imagine toujours que c'est le fruit d'un laboratoire obscur qui veut épandre sa domination sur la planète, etc. Alors, aujourd'hui, c'est tout à fait faux. Et je donne effectivement l'exemple d'un petit haricot, le haricot niébé, qui est au Nigeria, était toujours victime d'un petit insecte foreur qui s'appelle le bruche. Qu'ont fait les Nigérians? Ils ont réussi, et c'est une recherche publique nigériane, qui a réussi à trouver un gène protecteur donc du bruche et à l'incorporer dans ce haricot niébé, ce qui fait qu'aujourd'hui, les paysans nigérians, parce qu'en plus, ce brevet est libre de droit, peuvent cultiver un haricot niébé qui, sans besoin dépendre de pesticides, en l'occurrence d'insecticides, pousse naturellement sans se faire attaquer par le bruche. Donc vous avez une recherche publique, un brevet libre de droit, une plante qu'on peut cultiver en économisant des insecticides, ce qui est toujours bon pour la biodiversité. Et voilà, c'est vraiment le contre-exemple de l'idée générale assez négative qu'on a sur les OGM en Europe.
Parce que vous rappelez qu'il n'y a pas que Syngenta, Monsanto et autres qui pratiquent cela, il y a aussi des opérateurs publiques.
Bien sûr.
Qui mettent à disposition de l'ensemble de la population lorsqu'elles ont des découvertes comme ça. Et qu'ici, en la matière, le haricot permet à des populations entières de pouvoir avoir accès à de la nourriture aussi.
Le haricot au Nigeria, l'aubergine brinjal en Inde. Aujourd'hui, n'importe quelle petite start-up ou n'importe quel laboratoire, privé ou public, il ne faut pas diaboliser la recherche privée versus la recherche publique. Dans les deux, vous avez des bonnes et des mauvaises recherches. Au bout du bout, vous avez des agriculteurs qui vont se servir de ces semences. Et aujourd'hui, n'importe qui, avec un peu de recherche, peut créer des OGM. Vous le savez, il y a des nouvelles techniques d'édition génétique sur lesquelles la Commission européenne, tout près d'ici, est en train de se pencher, ce qu'on appelle les NGT, les New Genomics Techniques. Le futur est absolument extraordinaire. Pour rappel, quand vous mettez des OGM dans un endroit, vous diminuez d'un gros tiers la charge de pesticides que vous allez mettre sur ces cultures. C'est une moyenne qui est un consensus scientifique. Si on veut mettre moins de pesticides, si on veut sécuriser les rendements face au changement climatique, qui est une énorme menace pour l'agriculture dans beaucoup de pays, nous avons besoin de ces nouvelles techniques d'édition génomique, nous avons besoin d'organismes génétiquement modifiés, la planète y gagnera, la biodiversité, moins de pesticides, y gagnera, et ni notre santé ne seront affectées et on sécurisera nos approvisionnements alimentaires.
Je préfère quand même, et de loin, la recherche publique que la recherche privée, qui n'ont pas toujours les mêmes intentions à la base. Et je ne parle pas des chercheurs uniquement, mais plutôt de ceux qui les financent dans certains cas. Mac Lesguy, toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. Ce livre est paru aux éditions du Rocher. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio.
Merci à vous. Vous m'avez accueilli.